Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Sélection du Reader's Digest et la conversation. Au programme, 7 petites erreurs géniales qui ont changé le monde. Et l'astrosurfing, ou l'art de créer de faux mouvements populaires. Bonne écoute.
Sept petites erreurs géniales qui ont changé le monde. Un texte de Jacopo Della Quercia, paru le 14 juillet 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest. Il est surprenant de voir que certains événements décisifs, basés sur des petites erreurs, sont le fruit du hasard, comme cette noix de coco qui a sauvé la vie de JFK. Première erreur. Le bonbon gluant et l'invention du micro-ondes. Fasciné par le naufrage du Titanic, Percy Spencer est devenu scientifique. Engagé dans la marine américaine, il y acquiert une formation en radiotélégraphie. Les travaux de cet expert civil sur les radars pendant la Seconde Guerre mondiale lui valent le prix de l'utilité publique accordé par la marine. Tout cela sans même avoir terminé l'école secondaire. Au début des années 1940, Spencer, qui travaille chez Raytheon, une entreprise de défense qu'il a intégrée dans les années 1920, passe un jour près d'un équipement de radar. Mettant alors négligemment la main dans la poche de sa chemise, il y trouve une matière gluante. L'homme a souvent sur lui une confiserie aux arachides dont il nourrit les écureuils. Il connaît suffisamment les radars pour soupçonner les ondes du magnétron d'en être responsable, mais n'en est pas sûr. Il pose alors un sac de grains de maïs devant la machine et les grains éclatent aussitôt. Il refait l'expérience avec un œuf cru qui, bien entendu, explose au visage d'un collègue sceptique. Spencer affinera sa découverte chez Raytheon, qui la commercialisera auprès des compagnies aériennes, des sociétés ferroviaires, des restaurants et des paquebots de croisière sous le nom de Radarange. L'ancêtre de notre four à micro-ondes, le mastodonte de 1,80 m et près de 350 kg a fait du chemin depuis 1947. Il coûtait 4 000 $ à l'époque, soit environ 46 000 $ actuels. Deuxième erreur. La noix de coco qui a sauvé la vie de JFK. Le 2 août 1943, une nuit nuageuse et sans lune se levait sur le Pacifique Sud pour le lieutenant de la Navy John F. Kennedy, âgé de 26 ans. Il patrouillait dans les environs des îles Salomon, avec les membres de son équipage quand un destroyer japonais a surgi du brouillard et heurté leur petit torpilleur pété sans neuf. Une énorme boule de feu a illuminé le ciel. Deux hommes d'équipage sont morts dans le naufrage. Kennedy et les 10 survivants ont dû gagner à la nage l'île la plus proche. Jadis membre de l'équipe de natation de l'Université Harvard, Kennedy a réussi à sauver un camarade blessé en le tirant par les dents pendant 5 heures dans les eaux infestées de requins et de crocodiles. Ils ont atteint Plum Pudding Island, rebaptisé plus tard Île Kennedy, où les hommes ont survécu en se nourrissant de noix de coco. Plusieurs jours plus tard, les rescapés ont fait signe à 2 natifs des Salomon qui passaient en pirogue leur demandant de livrer un message aux forces alliées. La dépêche était gravée sur la coque d'une noix de coco. « Île Noro, commandant, indigène connaît Posit, peut y mener, 11 survivants, besoin petit bateau. Kennedy. » La noix de coco livrée, les hommes ont été rapidement secourus. des années plus tard, le juge Ernest W. Gibson Jr., qui avait été colonel dans le Pacifique Sud pendant la guerre, offrira au président Kennedy nouvellement élu un cadeau pour le moins original. La noix de coco sur laquelle avait été gravé le message. Kennedy l'a fait recouvrir de plastique et utiliser comme presse-papier durant son mandat. Elle fait aujourd'hui partie de l'exposition permanente de la bibliothèque et du musée John F. Kennedy à Boston. Troisième erreur. Dr. Seuss et Stephen King, sauver les poubelles de l'histoire. Aussi différents qu'ils puissent être, Stephen King et Dr. Seuss ont deux choses en commun. Ce sont des auteurs extrêmement populaires et ils ont l'un et l'autre échappé de peu à une vie dans l'ombre. Theodore Jason, le nom de naissance du bon docteur, a écrit son premier livre pour enfants au milieu des années 1930. Jason, qui était illustrateur publicitaire à l'époque, a envoyé son manuscrit fantasque à 27 maisons d'édition. Toutes l'ont refusé. Après sa dernière déconvenue, Jason redescendait d'un pas lourd Madison Avenue à New York, déterminé à jeter à la poubelle le manuscrit en même temps que sa carrière d'écrivain. Mais voilà que, toujours occupé à calmer sa colère, il croise Mike McClintock, un ancien camarade d'université, éditeur de livres pour enfants chez Vanguard. Jason lui expose son malheur. Mike McClintock demande à lire le manuscrit. Quelques modifications plus tard, Vanguard publie l'ouvrage en 1937. « Si j'avais marché de l'autre côté de la rue, je serais dans l'industrie du nettoyage à sec aujourd'hui », aurait dit Jason. Dans son premier roman, Stephen King suivait une adolescente victime de harcèlement qui, après s'être découvert d'incroyables pouvoirs mentaux, les utilisait pour se venger de ses persécuteurs. Mais l'auteur était son critique le plus sévère. Il n'aimait tellement pas cette histoire qu'il en a jeté le premier brouillon de 3 pages, admet-il, dans « Écriture, mémoire d'un métier ». Quelques heures plus tard, sa femme retrouve ses pages couvertes de cendres de cigarettes dans la corbeille à papier et les lit par curiosité. Le sujet l'emballe. « Elle a souhaité que je poursuive », écrit Stephen King. Elle voulait connaître la suite de l'histoire. Alors, il a continué. L'année de sa parution, Carrie s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires en édition brochée. Poursuivons avec la liste des 7 petites erreurs, géniales, qui ont changé le monde. Un texte de Jacopo Della Quercia, paru le 14 juillet 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest. Quatrième erreur. Le bon mot de l'avocat fait basculer le procès du siècle. Tous les éléments étaient réunis pour que cela devienne un procès exemplaire avant même que le suspect ne gare sa Ford Bronco blanche à Los Angeles en cette chaude nuit de l'été 1994. O.J. Simpson, légende du football et à l'occasion acteur à Hollywood, était accusé d'avoir tué sa femme Nicole Brown, Simpson et Ron Goldman, un serveur dans un restaurant local sur les marches de la propriété luxueuse de Nicole à Brentwood, en Californie. Les preuves contre O.J. étaient accablantes, notamment la présence de sang dans la bronco et sur le gant jumeau de celui trouvé près du corps de Ron. Le recours aux preuves ADN allait être monnaie courante pendant le procès, et pas à l'avantage d'O.J. Simpson. Tout comme le témoignage d'un certain Cato Kaelin, logé dans la maison d'invité d'O.J. Simpson, qui n'a pas réussi à confirmer avoir vu O.J. à l'heure des meurtres. L'équipe de défense aussi avait de nombreuses cartes en main. Le procès s'était ouvert quelques années seulement après les émeutes de Los Angeles et la polarisation raciale dans la ville était palpable. Les avocats s'efforçaient de démontrer que Mark Furman, un des agents de la police de Los Angeles qui enquêtait sur l'affaire, avait la réputation de tenir des propos racistes. De nombreux observateurs étaient tout de même persuadés que l'accusé serait reconnu coupable. À un certain moment, le procureur lui a demandé d'enfiler le gant trouvé sur la scène du crime. L'image de O.J. Simpson essayant de glisser sa forte main dans les doigts ajustés du gant de cuir reste un moment décisif du procès, comme la conclusion désormais historique qu'en a tiré l'avocat de la défense, Johnny Cochran. Si la main ne peut pas enfiler le gant, c'est l'acquittement, et le jury l'a accordé. Cinquième erreur. Un laboratoire mal rangé à l'origine d'un remède miracle. À l'été 1928, pressé de partir en vacances, le médecin écossais Alexander Fleming laisse un tas de boîtes de pétri sale dans l'évier de son laboratoire. Et comme si cela ne suffisait pas, les fonds sont enduits de staphylocoques, des bactéries responsables de furoncles, de maux de gorge et d'empoisonnements intestinaux. À son retour, quelques semaines plus tard, le docteur Fleming découvre une chose intéressante dans le désordre de l'évier. Une des boîtes de pétri est parsemée de bactéries, sauf à l'endroit où s'est formée de la moisissure. Il n'y a rien autour, comme si la zone était protégée par une barrière invisible. En examinant de plus près le phénomène, il constate que la moisissure, qui appartient à une forme rare de Penicillium notatum, a sécrété un liquide qui a tué plusieurs chaînes de bactéries mortelles. Alexander Fleming publie sa remarquable découverte, qui est passée presque inaperçue. Des années plus tard, Howard Walter Florey, un pathologiste australien, prend par hasard connaissance de l'article de Fleming en feuilletant de vieilles revues médicales. Avec le biochimiste Ernst Boris Chain, ils explorent les effets thérapeutiques du liquide sécrété par la moisissure et, en 1941, ils ont collecté suffisamment de pénicilline pour l'administrer à un premier sujet humain, un agent de police de 43 ans qui a contracté une infection bactérienne mortelle après avoir été égratigné par des épines de rosier dans son jardin. Les résultats sont spectaculaires. La fièvre du patient chute et son appétit revient. La pénicilline utilisée pour le soigner est rapidement qualifiée de médicament miracle. Malheureusement, faute de réserve, l'infection de l'agent flambe de nouveau et ce dernier finit par succomber. Le docteur Fleming partagera le prix Nobel avec les professeurs Florey et Chain pour leurs travaux sur ce remède miracle. Je ne m'attendais pas à révolutionner la médecine en découvrant le premier antibiotique, confiera-t-il humblement. Mais il faut croire que c'est la réalité. Sixième erreur. Un chien offre le velcro au monde. L'ingénieur suisse Georges de Mestral était un inventeur né. Considérant la nature comme la plus grande inventrice de la planète, il restait attentif à tous les phénomènes naturels que la science pourrait imiter. C'est ici qu'intervient son fidèle braque irlandais. Au retour d'une longue promenade dans les Alpes, de Mestral constate que son pantalon et les poils de son chien sont couverts de fruits de bardane. Il en met un sous le microscope et constate que les épines sont terminées par de minuscules crochets qui se prennent dans la plupart des tissus et des fourrures animales. De Mestral, qui ne prisait guère les fermetures éclairs, elles ont tendance à geler l'hiver dans la montagne, passera les 10 années suivantes à tenter de reproduire l'irrésistible attirance de la bardane pour son compagnon de marche. Après d'innombrables tentatives, de Mestral a identifié le bon matériau pour son invention. Le nylon, assez fort pour que tiennent les crochets et assez souple pour qu'il puisse être séparé quand on tire dessus. Sa demande déposée en 1952, il obtiendra le brevet 3 années plus tard. Il a appelé son invention « Velcro », mot valise composé de velours et de crochets. Septième erreur. une balle de ping-pong ébranle la Grande Muraille de Chine. En 1971, à Nagoya, Glenn Cowan s'entraînait pour les championnats du monde de tennis de table quand il s'est rendu compte qu'il était le seul Américain dans le centre d'entraînement. Il avait raté le bus officiel de l'équipe qui devait le ramener à l'hôtel. Nullement découragé, le jeune Californien de 19 ans est monté dans le bus de l'équipe nationale chinoise. Plusieurs athlètes observaient avec suspicion l'Américain aux cheveux longs et en bataille. Les États-Unis avaient mis fin à leurs relations diplomatiques avec la Chine en 1949 et les joueurs avaient interdiction de s'adresser aux Américains. Mais Zhuang Zedong, la star de l'équipe, s'est avancée pour serrer la main de Glenn. Les deux échangeront avec l'aide d'un interprète et Zhuang offrira une étole de soie verte représentant le massif des Huangshan en Chine. Glenn, qui se décrivait volontiers comme un hippie, voulant rendre l'appareil, offrira le lendemain à Zhuang un T-shirt représentant un symbole de paix et les mots « Let it be ». Après que cet échange spontané de bonne volonté aura fait le tour du monde, le leader chinois Mao Zedong invitera l'équipe entière de tennis de table à visiter son pays. Un an plus tard, le président Richard Nixon fera son voyage historique à Pékin. C'était sept petites erreurs géniales qui ont changé le monde. Un texte de Jacopo della Quercia, paru le 14 juillet 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest.
L'astro-surfing, ou l'art de créer de faux mouvements populaires, par Justine Lalande, doctorante au département de communication sociale et publique à l'Université du Québec à Montréal, a été publié dans le magazine La Conversation le 3 janvier 2023. Vous êtes-vous déjà demandé si les mobilisations citoyennes que vous apercevez dans la rue, sur vos réseaux sociaux ou dans les journaux, sont réellement le fruit du travail de personnes ordinaires? Ce n'est pas toujours le cas. En matière d'acceptabilité sociale, la mobilisation citoyenne est un facteur tellement important que certains sont tentés de fabriquer de toutes pièces de faux mouvements citoyens pour donner l'illusion qu'une majorité appuie leur point de vue. On appelle ce phénomène l'astro-turfing. Il s'agit d'une tactique qui consiste à usurper et instrumentaliser des mouvements citoyens afin de soutenir des intérêts particuliers. Outils de désinformation, de lobbying, de militantisme, mais aussi de relations publiques, l'astro-turfing englobe un ensemble de stratégies de communication. On viendra ainsi masquer les commanditaires d'un message ou d'une organisation pour faire croire qu'il provient et qu'il est soutenu par des citoyens ordinaires, alors que c'est faux. C'est une pratique visant à donner de la crédibilité aux déclarations ou aux organisations, mais en dissimulant des informations sur les liens qu'ils entretiennent entre eux, qu'ils soient financiers ou autre. Cette pratique est malheureusement de plus en plus courante, l'avènement du numérique offrant un éventail de nouvelles possibilités. Mais elle est aussi de plus en plus démasquée, comme le révèle la chercheure en communication Sophie Boulay de l'UQAM, qui a consacré sa thèse à ce phénomène dans un ouvrage qui recense 99 cas d'astroturfing dénoncés au cours des 25 dernières années. Les techniques de l'astroturfing sont multiples. Construction de faux profils en ligne, achat de faux followers sur Twitter ou de faux avis positifs, embauche de personnes pour manifester dans la rue, création de groupes citoyens de façade, la liste est longue. Le terme « astroturfing » est dérivé d'AstroTurf, une marque de gazon synthétique conçue pour ressembler à de l'herbe naturelle souvent utilisée sur des terrains sportifs. C'est un jeu de mots avec la dénomination anglophone des mouvements citoyens qui émanent de la base, qu'on appelle « grassroots ». L'astroturf désigne donc ces faux mouvements citoyens, mais qui font tout pour avoir l'air vrai, à l'image de ce gazon synthétique. Le terme est apparu aux États-Unis en 1986. C'est Lloyd Bentsen, un sénateur démocrate, qui a donné un nom à cette pratique après avoir reçu de nombreuses lettres de la part de citoyens qui s'inquiétaient vis-à-vis une nouvelle proposition politique visant à réglementer l'alcool. Il s'est avéré que ces lettres avaient été envoyées non pas par des citoyens inquiets, mais bien par l'industrie de l'alcool elle-même. C'est à ce moment qu'il a déclaré qu'il était capable de faire la différence entre du « grassroots » et de l'astroturf. Un des cas d'astroturfing les plus connus demeure la création par l'industrie du tabac de la National Smokers Alliance, NSA, en réponse à la législation anti-tabac aux États-Unis en 1993. De 1994 à 1999, la NSA, qui se présentait comme un regroupement de personnes fumeuses, mais pourtant secrètement financées par l'industrie du tabac, a effectué plusieurs campagnes de relations publiques visant à amoindrir les dangers liés à la cigarette. Autre cas connu, Purdue Pharma est une compagnie pharmaceutique tristement célèbre pour avoir mis sur le marché l'oxycontin à l'origine de la crise des opioïdes. Parmi les nombreuses tactiques utilisées pour faire mousser les ventes de ce médicament, Purdue Pharma a créé de toutes pièces une coalition de médecins, patients et travailleurs de la santé appelée Partners Against Pain, PAP, en 1997. Malgré ses allures indépendantes, PAP était entièrement financé par Purdue Pharma. Le site web, les brochures et les vidéos de Partners Against Pain n'étaient rien d'autre que des outils promotionnels destinés à convaincre le public et les médecins que la consommation d'opioïdes était sécuritaire et ne créait pas de dépendance, et non des témoignages comme ils ont tenté de le faire croire. Au Canada, le géant des télécommunications Bell a été reconnu coupable en 2015 par le Bureau de la concurrence d'avoir encouragé ses employés à rédiger des évaluations et des commentaires positifs au sujet des applications gratuites de la compagnie sans préciser qu'ils étaient employés. Ils ont dû verser 1,25 million de dollars en dommages. La loi canadienne sur la concurrence interdit les représentations fausses ou trompeuses. Au Québec, des dispositions semblables existent dans la loi sur la protection du consommateur. L'article 242 interdit effectivement aux commerçants de faire de la publicité en passant sous silence leur identité ou leur qualité de commerçant. Les lois qui encadrent actuellement l'astroturfing n'ont pas été pensées spécifiquement pour réglementer cette pratique. Elles ne sont pas toutes bien adaptées aux particularités contemporaines de l'astroturfing, ce qui explique le faible nombre de compagnies ou d'individus qui ont été mis en faute. C'est particulièrement vrai lorsque l'astroturf est utilisé à des fins politiques, mettre de la pression sur un politicien pour faire modifier une loi, par exemple, en fabriquant un faux mouvement citoyen. Comment repérer l'astroturfing? Par leur nature cachée, trompeuse et manipulatrice, il est difficile de reconnaître ces faux mouvements citoyens. L'astroturfing, bien que de plus en plus connu, fait l'objet d'un paradoxe. Une fois détecté, il cesse d'exister. Les techniques sont effectivement de plus en plus raffinées et difficiles à repérer. Il n'existe donc pas de truc ou astuce qui fonctionne à tout coup pour repérer l'astroturfing. Deux conseils? Se fier à son instinct et faire preuve de curiosité. Un groupe de patients d'une maladie rare qui a soudainement énormément de moyens? Un nouveau regroupement en faveur d'un projet énergétique qui fait une entrée fracassante dans la sphère publique? Un politicien qui a très soudainement beaucoup d'interactions sur ses réseaux sociaux? Si quelque chose semble clocher, c'est peut-être le cas. Utilisez votre esprit critique. Les messages d'AstroTurf peuvent effectivement sonner faux. En bref, faites le clic de plus en plus pour vérifier la provenance réelle d'un message et les intérêts qui pourraient s'y cacher. Vous venez d'entendre la lecture de « L'astroturfing » ou « L'art de créer de faux mouvements populaires » écrit par Justine Lalande, doctorante au département de communication sociale et publique à l'Université du Québec à Montréal et publiée dans le magazine « La Conversation » le 3 janvier 2023.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visivoire.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Claire Dorion à la lecture, André Lapointe et Pierre Duclos à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.